Histoire de la réformation du XVIe siècle, livre 11, chapitre 6. Abolition de la messe, songe de Zwingli, célébration de la scène, charité fraternelle, péché originel, les oligarques contre la réforme, attaques diverses. On n'avait pas voulu procéder à l'abolition de la messe dans Zurich aussitôt après l'abolition des images. Maintenant, le moment paraissait arriver. Non seulement les lumières évangéliques s'étaient répandues dans le peuple, mais encore les coups que frappaient les adversaires appelaient les amis de la parole de Dieu à y répondre par des démonstrations éclatantes de leur inébranlable fidélité. Chaque fois que Rome élève un échafaud et fait tomber quelques têtes, la réformation élèvera la sainte parole du Seigneur et fera tomber quelques abus. Quand Oettinger fut exécuté, Zurich abolit les images. Maintenant que les têtes des Wirths ont roulé à terre, Zurich répondra par l'abolition de la messe. Plus Rome accroîtra ses cruautés, plus la réformation verra croître sa force. Le 11 avril 1525, les trois pasteurs de Zurich se présentèrent, avec Mégandre et Oswald Mykonius, devant le Grand Conseil et demandèrent qu'on rétablît la scène du Seigneur. Leurs paroles étaient graves. Les esprits étaient recueillis. Chacun sentait combien était importante la résolution que ce Conseil était appelé à prendre. La messe, ce mystère, qui depuis plus de 3 siècles était l'âme de tout le culte de l'Église latine, devait être abolie. La présence corporelle de Christ devait être déclarée une illusion, et cette illusion même devait être enlevée au peuple. Il fallait du courage pour s'y résoudre. Il se trouva dans le conseil des hommes que cette audacieuse pensée fit frémir. Joachim Amgrut, sous-secrétaire d'État, effrayé de la demande hardie des pasteurs, s'y opposa de tout son pouvoir. Ses paroles « Ceci est mon corps, » dit-il, « prouvent irrésistiblement que le pain est le corps de Christ lui-même. » Zwingli fit remarquer qu'il n'y a pas d'autre mot dans la langue grecque que « est » pour exprimer « signifie ». Et il cita plusieurs exemples où ce mot est employé en un sens figuré. Le Grand Conseil, convaincu, n'hésita pas. Les doctrines évangéliques avaient pénétré dans tous les cœurs. D'ailleurs, puisqu'on se séparait de l'Église de Rome, on trouvait une certaine satisfaction à le faire aussi complètement que possible et à creuser un abîme entre elle et la Réformation. Le Conseil ordonna donc l'abolition de la messe, et arrêta que le lendemain, jeudi saint, la scène se célébrerait conformément aux usages apostoliques. Zwingli était vivement occupé de ses pensées, et le soir, quand il ferma les yeux, il cherchait encore des arguments à opposer à ses adversaires. Ce qu'il avait si fort occupé le jour se représenta à lui en songe. Il rêva qu'il disputait avec Amgrut et qu'il ne pouvait répondre à sa principale objection. Tout à coup, un personnage se présenta à lui dans son rêve et lui dit « Pourquoi ne lui cites-tu pas, Exode 12:41, « Vous mangerez l'agneau à la hâte, il est le passage, la Pâque, de l'Éternel. » Zwingli se réveilla, sortit du lit, prit la traduction des Septante et y trouva le même mot, EST, dont le sens ici, de l'aveu de tous, ne peut être que signifie. Voici donc, dans l'institution même de la Pâque, sous l'ancienne alliance, le sens que Zwingli réclame. Comment ne pas en conclure que les deux passages sont parallèles? Le jour suivant, Zwingli prit ce passage pour texte de son sermon et parla avec tant de force qu'il détruisit tous les doutes. Cette circonstance, qui s'explique si naturellement, et l'expression dont Zwingle se servit pour dire qu'il ne se rappelait pas l'apparence du personnage qu'il avait vu en songe, on fait avancer que ce fut du diable que ce réformateur a pris sa doctrine. Les autels avaient disparu. De simples tables, couvertes du pain et du vin de l'Eucharistie, les remplaçaient. Et une foule attentive se pressait alentour. Il y avait quelque chose de solennel dans cette multitude. Le jeudi saint, les jeunes gens. Le vendredi, jour de la Passion, les hommes et les femmes. Le jour de Pâques, les vieillards célébrèrent successivement la mort du Seigneur. Les diacres lurent les passages des Écritures qui se rapportent à ce sacrement. Les pasteurs adressèrent au troupeau une pressante exhortation, invitant tous ceux qui, en persévérant dans le péché, souilleraient le corps de Jésus-Christ, à s'éloigner de cette scène sacrée. Le peuple se mit à genoux. On apporta le pain sur des grandes patènes ou assiettes en bois, et chacun en rompit un morceau. On fit passer le vin dans des gobelets de bois. On croyait ainsi se rapprocher mieux de la scène primitive. La surprise ou la joie remplissaient tous les cœurs. Ainsi la réforme s'opérait dans Zurich. La simple célébration de la mort du Seigneur semblait avoir répandu de nouveau dans l'Église l'amour de Dieu et l'amour des frères. Les paroles de Jésus-Christ étaient de nouveau esprit et vie. Tandis que les divers ordres et les divers parties de l'Église de Rome n'avaient cessé de disputer entre eux, le premier effet de l'Évangile, en rentrant dans l'Église, était de rétablir la charité parmi les frères. L'amour des premiers siècles était rendu alors à la chrétienté. On vit des ennemis renoncer à des haines antiques et invétérées et s'embrasser après avoir mangé ensemble le pain de l'Eucharistie. Zwingle, heureux de ces touchantes manifestations, rendit grâces à Dieu de ce que la scène du Seigneur opérait de nouveau ces miracles de charité que le sacrifice de la messe avait dès longtemps cessé d'accomplir. « La paix demeure dans notre ville, s'écria-t-il. Parmi nous, point de feinte, point de dissension, point d'envie, point de querelle. D'où peut venir un tel accord si ce n'est du Seigneur et de ce que la doctrine que nous annonçons nous porte à l'innocence et à la paix. Il y avait alors charité et unité, quoiqu'il n'y eût pas uniformité. Zwingle, dans son « Commentaire de la vraie et de la fausse religion », qu'il dédia à François Ier en mars 1525, année de la bataille de Pavie, avait présenté quelques vérités de la manière la plus propre à les faire accueillir par la raison humaine, suivant en cela l'exemple de plusieurs des théologiens scolastiques les plus distingués. C'est ainsi qu'il avait appelé maladie la corruption originelle et réservé le nom de péché pour la transgression actuelle de la loi. Mais ces assertions, qui excitèrent quelques réclamations, ne nuisirent pourtant point à l'amour fraternel. Car Zwingle, tout en persistant à appeler le péché originel une maladie, ajouta que les hommes étaient perdus par ce mal, et que l'unique remède était Jésus-Christ. Il n'y avait donc ici aucune erreur pélagienne. Mais tandis que la célébration de la scène était accompagnée dans Zurich d'un retour à la fraternité chrétienne, Zwingle et ses amis avaient d'autant plus à soutenir au dehors l'irritation des adversaires. Zwingle n'était pas seulement un docteur chrétien, il était aussi un vrai patriote. Et nous savons avec quel zèle il combattait les capitulations, les pensions et les alliances étrangères. Il était convaincu que ces influences du dehors détruisaient la piété, aveuglaient la raison et semaient partout la discorde. Mais ces courageuses protestations devaient nuire au progrès de la réforme. Dans presque tous les cantons, les chefs qui recevaient les pensions étrangères et les officiers qui conduisaient au combat la jeunesse helvétique formaient de puissantes factions, des oligarchies redoutables, qui attaquaient la Réformation, non pas tant en vue de l'Église qu'à cause du préjudice qu'elle devait porter à leurs intérêts et à leurs honneurs. Déjà, ils l'avaient emporté à Schwitz. Et ce canton, Zwingle, Léon Judas et Oswald Mykonius avaient enseigné, et qui semblait devoir suivre la marche de Zurich, s'était tout à coup rouvert aux capitulations mercenaires et fermé à la réforme. À Zurich même, quelques misérables, soulevés par des intrigues étrangères, attaquaient Zwingle au milieu de la nuit, jetaient des pierres contre sa maison, en brisaient les fenêtres et appelaient à grands cris le « Roux Uli », le vautour de Glaris, en sorte que Zwingle, réveillé, courait à son épée. Ce trait le caractérise. Mais ces attaques isolées ne pouvaient paralyser le mouvement qui entraînait Zurich et qui commençait à ébranler la Suisse. C'étaient quelques cailloux jetés pour arrêter un torrent. Partout, ces eaux grossissantes menaçaient de vaincre les plus grands obstacles. Les Bernois ayant déclaré aux Zurichois que plusieurs États avaient refusé de siéger à l'avenir avec eux en diète, « Eh bien, répondirent ceux de Zurich avec calme, et en levant, comme autrefois les hommes du Rully, leurs mains vers le ciel, nous avons la ferme assurance que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom duquel la Confédération a été formée, ne s'éloignera point de nous et nous fera à la fin siéger, par miséricorde, à côté de Sa Majesté souveraine. » Avec une telle foi, la Réforme n'avait rien à craindre. Mais remporterait-elle de semblables victoires dans les autres États de la Confédération? Zurich ne demeurerait-il pas seul du côté de la parole? Berne, Bâle, d'autres cantons encore, resteront-ils assujettis à la puissance de Rome? C'est ce que maintenant nous allons voir. Tournons-nous donc vers Berne et étudions la marche de la Réforme dans l'état le plus influent de la Confédération.